Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de retracer le parcours de Justine Hutto. Je crois qu'on peut dire que Justine a été la sensation 2019 de la sphère entrepreneuriale sur Internet, puisqu'elle a lancé sa marque de produits d'hygiène naturelle Respire à partir d'un financement participatif qui leur aura permis de vendre plus de 30 000 produits avant même son lancement. Depuis, Justine n'arrête pas. Son déo est dispo chez Monoprix, chez Sephora. Elle a lancé une crème solaire cet été, un shampoing solide et un savon sur gras cet hiver. Et elle va lancer de nombreux nouveaux produits en 2020. Mais alors, on pourrait se demander, après quoi Justine court-elle? Alors là, c'est un petit jeu de mots bien placé parce que oui, Justine court aussi pas mal. C'est d'ailleurs par le biais du running qu'elle a découvert les réseaux sociaux. Eh bien Justine, surnommée le petit bulldozer par son père quand elle était enfant, va nous raconter tout ceci dans cette interview qui nous permettra de mieux comprendre son parcours. Un immense merci à elle pour la confiance, vraiment. Je vous le disais la semaine passée, mais en 2020, j'aimerais donner un sérieux coup de fouet à ma newsletter, donc n'hésitez pas à aller vous abonner tout de suite. Le lien est dans les notes de cet épisode. Je vous enverrai un nouvel email tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour chaque nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je partagerai avec vous des réflexions, des lectures et bien sûr mes épisodes de podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du mat dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast. Venez mettre un commentaire sur www.histoireavecunsdesucces.com et mettez 5 étoiles et un commentaire dans Apple Podcast si vous avez un iPhone. C'est encore le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie de Justine.
Je pense qu'il y avait déjà...
T'as mis ton tel en machin ?
Je vais le mettre en mode off.
Tu l'as toujours avec toi, c'est...
Ouais, toujours.
C'est le prolongement de ta main, c'est ça ?
Un peu, le prolongement de mon corps, ouais, c'est le prolongement de ma tête presque.
De ta tête, carrément.
Ah bah, je note tout dans mon téléphone.
On est avec Justine, donc Justine Hutto, salut !
Salut !
Ça va ?
Ouais, super, et toi ?
Merci beaucoup, moi ça va très bien. Merci beaucoup de venir parler dans mon podcast, c'est cool, ça fait un long moment que je voulais te recevoir. Donc Justine, t'es, pour te présenter très rapidement, t'es la fondatrice, cofondatrice...
Exactement.
...de cette nouvelle marque de cosmétiques.
De soins d'hygiène naturelle.
Ok !
Attention !
La meuf a déjà tout préparé. qui s'appelle Respire.
Ouais.
Et qui fait partie de ces succès lancés grâce à le crowdfunding, n'est-ce
Exactement.
Pas ?
Exactement.
Donc ça, c'est trop bien. J'ai notamment, tu vois, reçu dans ce podcast Irma. Je sais pas si tu te souviens d'Irma qui chantait et qui s'était fait aussi connaître par au tout début du crowdfunding.
Elle faisait
partie de cette génération d'artistes qui s'était fait lancer grâce au crowdfunding. Et c'est cool de voir en fait quand, donc c'était quand l'année passée 2018?
Ouais, nous c'était novembre 2018 le crowdfunding.
Que vous arrivez encore à lancer des boîtes comme ça juste sur une bonne idée. Et puis l'internet, et puis ton talent aussi parce qu'on va en reparler, mais t'as compris, t'as craqué un truc je pense.
Ouais, un petit truc.
J'aimerais bien, on va en parler un petit peu, mais j'aimerais bien savoir si c'était prémédité de ta part, ou si t'avais pensé un peu le truc, ou alors si tu t'es dit, ok, je vais faire ça, parce qu'en fait, je pense qu'il faut le faire, c'est la bonne façon de le faire. Mais on va reparler. Avant tout, j'aimerais bien, avant qu'on parle de tout ça, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu, c'est une question que j'adore poser à mes invités, à quoi tu ressemblais quand t'avais 7-8 ans ?
À quoi je ressemblais quand j'avais 7-8 ans? J'étais une petite fille déjà hyperactive. Ouais, c'est vrai, hein. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais hyperactive. Un bulldozer. Mon père m'appelle le bulldozer.
Ah, ok.
C'est marrant, je le dis jamais. Mais ouais, il me dit tout le temps, t'es un bulldozer. Genre, dès que j'ai une idée, je fonce et je passe pas par quatre chemins.
Quoi. Ok.
Donc ouais, à 7-8 ans, je pense que j'étais déjà un petit bulldozer, passionnée de piano. Donc je jouais au piano à longueur de journée au conservatoire et donc je m'entraînais à la maison. Ma mère en avait marre de m'entendre jouer tout le temps les mêmes morceaux, mais en même temps, mes parents adoraient m'entendre jouer au piano quand même. Je faisais aussi beaucoup de sport, de GRS, donc gymnastique rythmique sportive.
Ah, oui.
J'ai fait de la compétition en individuel, en équipe, complètement fan. Donc ouais, c'était GRS, piano. J'ai fait un peu de tennis aussi et j'étais une gamine super dynamique et tout le monde me disait que j'étais toujours méga souriante. Donc
t'as pas
à quoi
trop
je
changé,
ressemblais physiquement. Ouais, je pense que je souris toujours. je sais pas pourquoi, c'est ouais, ça fait partie de moi et puis j'adore les gens qui sourient, ça véhicule un truc une énergie positive.
Comment ça se concrétisait l'aspect bulldozer quand t'as 7-8 ans?
Comment ça se concrétise?
Pourquoi ton père disait que t'étais un bulldozer, en fait? C'est marrant comme...
Parce que j'étais toujours à fond, parce que quand j'avais une idée en tête, c'était... Bah ouais, je rouspétais grave si les gens allaient pas dans mon sens et qu'il fallait pas, ils voulaient pas faire mon idée avec moi. Clairement, non mais j'étais toujours à fond, quoi. C'était... Enfin, je sais pas, j'avais envie d'aller jouer à Adibou sur l'ordi. Je vais jouer à Adibou sur l'ordi, puis je vais m'y mettre à fond parce que je veux tout gagner, quoi. Enfin, c'était vraiment, j'étais à fond. Enfin, un exemple encore de bulldozer, un des derniers exemples avant que je lance Respire, c'était quand je suis rentrée du Canada, parce que j'ai vécu au Canada, et que j'ai dit à mon père, je veux trouver un appart sur Paris. Et il m'a dit, ouais, c'est une bonne idée, mais attends, t'as encore le temps de vivre chez nous, mes parents habitent en banlieue parisienne. Et j'ai cherché un appart, et il m'avait dit, bon, regarde, mais on va prendre quelques mois pour se décider. En 3 semaines, j'avais un appart. J'ai genre visité tous les apparts de Paris, puis j'ai trouvé le mien, et bulldozer, j'ai foncé, j'ai pris mon appart. Voilà, donc tu vois, c'est... Voilà, mon père a toujours dit, tu es un bulldozer.
comment tu grandis quand, donc 7-8 ans, on voit, j'ai pigé. À la fois l'aspect, c'est marrant parce que pour moi, l'aspect piano et bulldozer, ça va pas trop ensemble parce qu'il y a un côté posé justement, tu vois, t'es obligé de te poser les fesses sur ton piano. Mais ceci dit, je vois bien l'aspect bulldozer du style, cette partition, je...
Ah oui, mais attends, j'alternais entre mon fauteuil de piano et l'ordinateur où j'allais chercher des nouvelles partitions, les imprimer pour les poser sur mon piano, pour les déchiffrer et les apprendre et répéter les mêmes gammes toute la journée, pendant des heures, pour m'assurer que ça passe et que ma main soit capable de bouger sur le piano. J'ai fait 15 ans de conservatoire, 15 ans de piano, je suis complètement passionnée de ça.
Bon niveau, quoi.
Un petit peu.
Au bout de 15 piges de conservatoire.
Ouais, j'adore ça, je suis passionnée, quoi. Okay. Et du coup, le petit bulldozer du piano.
Tu continues à jouer aujourd'hui?
Pour me détendre.
Okay.
Maintenant, pour le coup, c'est plus niveau hyperactif, c'est vraiment pour me détendre. Alors, j'ai pas de piano là chez moi, mais dès que je vais chez mes parents, je me défoule.
Mais comment tu fais alors pour vivre sans piano là chez toi?
Là, j'ai un 22 mètres carrés à Paris, donc il n'y a pas de place pour le piano, mais j'aimerais trop en mettre un dans mes bureaux.
Bah oui, j'allais te dire, t'as de la place là-bas.
Ouais, j'en ai déjà parlé à l'équipe, donc je pense que ça va arriver. Mais ouais, c'est du coup dès que je vais chez mes parents, et puis quand j'ai vécu à Montréal pendant 6 ans, pendant mes études, là pour le coup j'ai acheté un piano et je l'avais avec moi. Et pendant les examens, ça m'aidait carrément à me canaliser.
Ok.
C'est, ouais.
Comment se passe le collège pour toi?
Très bien. Le collège, donc très sportive, j'ai toujours continué là-dedans, aussi à jouer au piano. Bonne élève.
Bonne élève.
Ouais, toujours dans le top 3 des meilleurs de classe. J'ai grosse matheuse, j'adore les maths, donc toujours complètement passionnée des maths, passionnée des langues, de l'espagnol, de l'anglais. Ouais, collège, franchement, ça s'est très bien passé, j'ai eu des super amis.
Pas de problème particulier?
Non, pas du tout.
Le lycée, c'est cool pour toi ou pas?
Ouais, le lycée, c'est cool, mais là, je découvre un côté qui me plaît moins, c'est la compétition. La compétition à l'école. C'est-à-dire que moi, je faisais des compétitions de sport, de GRS et tout. Mais non, la compétition entre inter-étudiants, où en fait, on est tous là. C'était à celui qui avait la meilleure note, à celui qui devenait premier de la classe, qui devenait délégué de classe, et à celui qui avait les meilleures notes pour pouvoir accéder aux meilleures écoles. Parce qu'en fait, à partir de la seconde, on se dit toujours que le dossier compte pour les écoles d'après. Et ça a commencé à me foutre une pression énorme, où en fait je supportais pas, j'avais l'impression que c'était plus des amitiés, en fait c'était juste on se voyait en classe et c'était plus de l'entraide entre étudiants, c'était vraiment de la compète.
Mais t'étais dans un lycée compétitif,
privé,
c'est ça?
Non, un lycée privé où il y a 100% au bac. Enfin ouais, un lycée où ils cherchent à ce qu'on ait tous les meilleures notes et qu'ils notent quand même assez sévèrement. Enfin j'étais, je vais pas dire que c'était un lycée difficile, pas du tout, mais c'était un lycée où il y avait un certain niveau et du coup fallait bien bosser, être à fond pour réussir à se démarquer et surtout même si c'est un très bon lycée, c'est un lycée qui est pas très connu en banlieue parisienne. Et moi, je me disais, pour les écoles que je veux faire après, je savais pas encore exactement ce que je voulais faire, mais je me disais, il faut absolument que j'ai un bon dossier.
Et mais c'est marrant en fait que tu dises que t'aimes pas la compète, alors que je pense que tu... Enfin, déjà, à mon avis, conservatoire, c'est hyper compétitif, t'as pas le choix.
Ouais, oui et non. En fait, au conservatoire, j'ai pas du tout vécu parce que j'avais un prof, j'avais des cours particuliers en fait avec mon prof de piano. Du coup, j'étais jamais confrontée à d'autres élèves entre guillemets, à part quand je passais des examens de fin d'année. Mais en fait, j'entendais pas les autres passer et c'était juste le jury qui me donnait une note et qui me disait si je passais au niveau supérieur. Donc non, là pour le coup, la compète, je l'ai pas vécu. Je l'ai vécu en GRS.
GRS,
ouais. Là, je l'ai vécu. Mais comme c'était, même que ce soit en équipe ou en individuel, on est toujours toute l'équipe du même de la même ville, en fait, du même club de GR. Et du coup, on allait ensemble à nos compétitions, il y avait une vraie entraide et une vraie solidarité entre chaque fille. On n'était que des filles, mais vraiment une vraie solidarité à la GRS.
C'est ça, c'est que en gros, t'étais une équipe contre une autre.
Ouais.
Et c'est c'était peut-être moins dur à vivre pour toi que si ouais. T'avais dû être.
Ouais, exactement. Et puis même, en fait, quand une autre équipe gagnait, on se réjouissait pour elle. Enfin, tu vois, il y avait pas ce côté où genre on était, oui, on allait à la compète et on avait envie de faire un podium, mais en vrai, si on le faisait pas, c'était pas non plus hyper grave et on était hyper contente pour les filles qui l'avaient fait. Donc c'était, je trouvais, une compétition bienveillante.
Okay.
Et c'est ça en fait.
C'était moins le cas au collège.
Et c'est
lycée,
ça. Moi au lycée, ce que j'ai ressenti, c'est de la compétition malveillante où c'était. Enfin, tu vois, je vais pas dire qu'il y avait de la triche, mais genre, je sais pas, j'étais dans un univers où j'avais l'impression que c'était si je loupais un cours, t'avais quasi personne qui avait envie de me donner ses notes pour que je puisse récupérer le cours que j'avais manqué. Et c'était un peu ça entre tous les étudiants. Et du coup, ça m'a vraiment choquée. Ça m'a mise dans un mood où j'étais plus hyper à l'aise et en fait j'étais en train de réfléchir à ce que je voulais faire après et c'est là où il y avait la question de se dire ok, je veux partir en école de commerce parce que je sais pas exactement ce que je veux faire, le commerce me plaît et on me parlait d'aller en prépa pour pouvoir faire les meilleures écoles et en fait j'ai rencontré des gens qui étaient en prépa à ce moment-là et ils m'ont dit si t'aimes pas la compétition ne va pas en prépa parce que c'est pire, c'est genre personne cède, donc je n'y ai pas été, je ne sais pas comment c'est.
Ah ouais,
ouais, okay. J'ai, au moment des, je sais plus, comment on dit, les administrations post-bac, là, où ouais. Il fallait mettre ce que je voulais.
Parcoursup,
exactement. J'avais rentré, les prépas, enfin, les meilleures prépas à Paris. J'avais eu la prépa Grand Champ, d'ailleurs, à Versailles. Donc, c'était ça, un de mes choix. Mais en fait, c'est là aussi où, donc, dans ces années lycée, je me suis dit, en fait, j'ai envie de sortir de tout ce côté, un peu compète et tout. Et on m'a parlé d'HEC Montréal. Et du coup, dans ma dernière année en terminale, je suis allée visiter Montréal. Je suis allée rencontrer des étudiants à HEC Montréal, visiter l'école. Et là, je suis tombée complètement in love de l'école, de la ville. Et je me suis dit, je veux aller là-bas.
HEC Montréal, c'est pas la même chose que le HEC qu'on connaît à Paris, quoi, c'est ça?
C'est le même nom. Tu vois, HEC Paris, HEC Lausanne, HEC Montréal. Mais en fait, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre les écoles, c'est toutes des très bonnes écoles et elles fonctionnent toutes de manière très différente. Et HEC Montréal, enfin c'est une école, vraiment, je fais un éloge à chaque fois parce que je suis tombée amoureuse de cette école. Je m'y suis sentie super bien, je suis partie du coup à 18 ans. J'ai fait une année de prépa sur place, en fait c'est une prépa intégrée pour les Français, parce que quand on arrive là-bas, les Québécois, en fait, ils passent leur bac à 19 ans. Enfin, ils terminent, c'est pas leur bac, c'est leur cégep, leur bac québécois. Et donc, nous, on arrive français à 18 ans, un an avant eux. Donc, en fait, on a une année de mise à niveau un peu pour attendre les Québécois, j'ai envie de dire, pour rentrer dans l'école. Et du coup, c'est dans l'école que se passe cette prépa, uniquement entre Français. Puis en même temps, c'est l'année où on commence à s'adapter à la culture, on se recrée un peu une famille sur place, parce qu'on est quand même jeunes et on quitte tous nos familles. Et après, à 19 ans, là, je suis rentrée en première année avec les Québécois qui arrivent et j'ai passé 3 ans et j'ai diplômé en finance.
Ok, tu vas un peu vite, mais...
Ouais, pardon.
On a le temps, tu sais. Hein.
Je vais aller moins vite.
On a le temps. Mais en fait, tu disais que tu avais réussi à trouver un contact chez HEC Montréal. Comment ouais. T'avais fait par hasard?
Comment j'avais fait à l'époque, c'était Facebook.
Oui.
Donc j'étais sur Facebook, clairement j'étais pas sur Instagram, j'étais sur Facebook et ce qui était très drôle c'est que j'avais mis en pseudo « je pars à Montréal la semaine prochaine pour visiter HEC Montréal » et puis coup de chance, et puis, en fait je demandais si quelqu'un connaissait des gens et coup de chance en fait il y a un ami de longue date que j'avais pas revu depuis un moment qui m'écrit et qui me dit que sa copine était à HEC Montréal,
okay.
Du coup j'y suis allée et j'ai même logé chez sa copine pendant une semaine, donc en fait ça a été tout bénef et du coup j'ai vraiment vécu, donc elle était dans cette année de prépa. et elle a un an au-dessus de moi. Après, c'est devenu ma coloc. Enfin bref, tu vois, c'est toute une histoire. Mais en fait, pendant une semaine, j'ai vécu avec ces étudiants d'HEC Montréal qui étaient en prépa et je voyais que c'était la fête, mais en même temps, ils bossaient, ils étaient tous super amis et ils s'étaient recréé une famille, leur famille française de là-bas en fait. Et puis le fait qu'il fasse moins 30 degrés, que tout le monde soit habillé avec plein de couches, c'était vraiment l'univers, l'ambiance, tout me plaisait, tout me donnait envie d'y aller.
D'accord. Donc tu fais tes études?
Ouais.
Pendant 3 ans, c'est ça? Finance?
Alors 4 ans du 4 coup. 4 ans. Ans où je diplôme en finance. En 2016.
Pourquoi finance?
Et donc comme je t'ai dit,
matheuse.
Donc en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup de choses et j'avais du mal à choisir en fait pendant mes années. C'est super dur en vrai quand t'es en école de commerce et qu'on te dit il faut choisir une spécialité. Tu regardes un peu ce que tu veux faire plus tard mais tu sais pas trop. Et en fait, les maths, c'est là où je suis bonne, où j'étais bonne. Donc en fait, je me suis dit là où il y a le plus de maths, c'est en finance. Puis je trouvais que la finance, je sais pas, il y avait un côté. Je diplôme en finance, je sais pas, je suis trop fière quoi. Et du coup, et puis c'est marrant, mais tout le monde voulait aller en marketing. Et moi, je me disais, le marketing, c'est naze, c'est pour faire de la publicité. Et en fait, j'avais une vision hyper biaisée du marketing. Pour moi, je pensais que c'était uniquement faire de la publicité mensongère, duper le consommateur. C'était la vision vraiment que j'avais du marketing.
Ça devenait d'où?
Je sais pas du tout, peut-être dans, c'est quoi, attends, c'est hyper drôle, mais le premier cours de marketing que j'ai eu, donc Marketing 100, comme ça s'appelle à HEC Montréal.
101.
101, exactement. J'ai eu des plus. Genre, j'ai eu une note de merde, quoi. Ouais. Enfin, alors que tous les autres cours, j'avais A+. Donc, ce qui est hyper drôle aujourd'hui, c'est que on me fait parler de marketing, alors qu'en fait, le premier cours que j'ai fait en marketing, j'ai failli avoir échec.
Mais parce que t'aimais pas,
Ouais, j'aimais pas ça, j'avais vraiment l'impression que le marketing, c'était pour faire de la publicité, pour aller vendre des choses que j'aime pas spécialement. En plus, en cours, on me demandait de faire tout un pitch pour vendre un stylo, que clairement, le stylo, déjà, je l'aimais pas. Donc, je voyais pas pourquoi je devais faire un pitch pour le vendre. Enfin, tu vois, j'étais pas en lien, en fait, avec ce qu'on me demandait de faire. Et du coup, j'étais biaisée. Je trouvais que c'était uniquement duper le consommateur avec un message. C'est marrant, hein?
Ok.
Donc, quand j'y repense, je trouve ça hyper drôle.
Qu'est-ce que tu retiens de tes études?
Qu'est-ce que je retiens de mes études? Parce que du coup, non mais attends, ce que j'ai pas fini, c'est que j'ai diplômé en finance.
T'as
en 2016,
en finance.
Mais après j'ai quand même fait une maîtrise, je suis restée à HEC Montréal et j'ai fait une maîtrise scientifique en marketing.
Ok.
Finalement, après la finance, je me suis dit, la finance, c'est sympa, mais il n'y a pas assez de relationnel. Et moi, j'adore parler avec les gens, j'adore rencontrer du monde. Et je m'épanouissais plus trop dans ce milieu financier. Et en fait, là, j'ai creusé un peu et j'ai découvert que le marketing était autre chose grâce à des compétitions que j'ai faites. En fait, à HEC Montréal, il y a des compétitions académiques où on te donne les écoles québécoises les unes contre les autres et on est en équipe de 3 et en fait on nous donne une étude de cas réelle d'une vraie boîte et on a 3 heures pour plancher à 3 sans accès à internet, à rien, pour faire un pitch avec une recommandation stratégique. Moi, c'était dans le marketing stratégique que j'étais, donc avec une étude de marché et recommander le développement de nouveaux produits à la marque. Et en fait, j'ai fait 3 compétitions et avec mon équipe, on les a toutes gagnées. J'étais à fond, j'adorais ça. J'adorais avoir des contraintes où il fallait se challenger pour résoudre des cas, pour des cas réels. Et en plus, pitcher. Tu vois, après, on avait 30 minutes pour pitcher devant la boîte. Et c'est là que j'ai découvert vraiment l'expression orale, en fait. Enfin, s'exprimer à l'oral. Et j'ai adoré. Vraiment, j'étais fan. Et du coup, quand tu me dis qu'est-ce que j'ai retenu, surtout à HEC Montréal, j'avais un cours du coup qui s'appelait Améliorer ses présentations orales, que je faisais dans le cadre de ces compétitions. Après, je l'ai tellement aimé que je l'ai moi-même donné. J'ai été assistante de professeur pour donner ce cours dans la fin de mes études. Et en fait, ça, c'est un des cours qui m'a le plus aidé et qui m'a le plus apporté. Puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai des talks, je m'exprime devant du monde, même je me fais des vidéos où je tourne face caméra et je suis décomplexée. Tu vois, alors qu'avant mes études, j'avais tendance, il y a une photo de moi, je me regarde, je sais pas trop si je dois la poster, les vidéos, tu sais, on se regarde, on s'aime pas trop en vidéo. Et en fait, HEC Montréal m'a décomplexé, m'a permis d'accepter d'être moi-même et d'être beaucoup plus naturelle à l'oral et d'oser m'exprimer. Et ça, vraiment, ça m'a changé la vie.
Mais t'osais pas avant, t'étais plutôt... Parce que de tout ce que tu me racontes, tu vois, j'avais plutôt l'impression que t'étais une petite fille depuis que tu en jouais, etc. Et que t'avais pas forcément peur d'ouvrir ta gueule, quoi, tout simplement.
Ouais, Alors, c'est vrai que j'étais pas une timide, ça ouais. c'est clair, mais je peux pas dire que j'étais la plus à l'aise devant, tu vois, quand il fallait pitcher devant toute une classe okay. de 30 personnes, j'étais pas celle qui faisait des roues et des galipettes devant tout le monde. Enfin, clairement, j'étais un peu réservée,
pourtant,
un peu toute rouge
pu.
Et j'aurais pu.
Avec un ruban et tout.
Avec un ruban, exactement.
Vous vous embrouillez.
Mais voilà. Mais non, du coup, ça m'a vraiment. Enfin, c'est là que j'ai pris conscience que, en fait, non, je m'épanouis à parler devant du monde, à m'exprimer, et aussi à avoir confiance dans mes idées. Enfin, c'est bête, mais je trouve que avant de partir de la France, c'est vrai qu'au lycée, on fait des travaux d'équipe, on bosse pas mal en équipe, et souvent on nous casse dans nos idées. Enfin, je trouvais qu'il y avait pas, on valorisait pas les idées, en tout cas de chacun. Et à HEC Montréal, j'ai trouvé que toutes mes idées ont été à chaque fois valorisées ou alors challengées, mais on nous aide vraiment. Déjà, il y a des bourses au mérite. On nous aide à faire de mieux en mieux. J'ai eu pas mal de bourses au mérite parce que j'avais des performances scolaires qui étaient très bonnes. Enfin, on nous tire vraiment vers le haut. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Et tu vois, j'ai fini mes études sur un sujet de thèse, une thèse de fin d'études où mon sujet de base que j'ai choisi, qui a évolué dans le temps, mais le sujet de base, c'était pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux. C'est là que je me suis mise à courir, on va en parler.
Petit à petit.
Voilà, c'est là, on va en parler. Mais et en fait, ce sujet, ce qui est incroyable, c'est que je l'ai choisi donc avec mon directeur de thèse parce que c'est quelque chose qui m'intriguait dans la société. Je courais pas du tout et je comprenais pas pourquoi les gens couraient. Et du coup, j'ai choisi ce sujet. Et en fait, après ça, je suis venue en échange à Paris Dauphine, à l'université à Dauphine. Donc j'ai bien aimé. Hein, pendant 6 mois, j'ai étudié là-bas, mais j'ai rencontré des professeurs.
T'es venue en échange en France.
Ouais, c'est hyper drôle. Hein.
Okay.
C'est une Française qui est venue en échange en France. C'est assez marrant. Et en fait, il y a des professeurs donc qui me demandaient mon sujet de thèse au Canada. Je leur en parlais et ils comprenaient pas que ça puisse être un sujet qu'on étudie en thèse de fin d'études. Et enfin, en fait, eux, ils voulaient des sujets très traditionnels, vus et revus. Et en fait, à Montréal, ce que je veux dire par là, c'est qu'on m'a vraiment poussée à étudier des choses qui sortent de l'ordinaire et qui me font me sortir de ma zone de confort. Et c'est ça que j'ai adoré.
Et donc, comment t'en es venue à te dire pourquoi les gens courent ? Déjà, pourquoi cette question ?
Pourquoi cette question ?
Surtout si tu
Parce
cours pas.
Que, ouais, alors ça, c'était en 2016 que je devais choisir ce sujet, enfin un sujet de thèse, déjà un directeur de thèse que j'ai choisi qui est anthropologue, dont j'étais complètement fan et je voulais bosser avec lui. Et en fait, j'ai choisi ce sujet parce que mes parents et ma sœur venaient de courir leur premier marathon. Ils s'étaient mis à courir, je pense. Ma mère courait déjà un petit moment. Mais mon père et ma sœur ont décidé de courir leur premier marathon avec ma mère. Un peu comme ça, ils se sont entraînés pendant 6 mois. Ils ont couru leur premier marathon. Et moi, j'étais à 6000 kilomètres là-bas. Et je comprenais pas. Je pleurais de joie quand j'ai vu leurs photos avec leurs médailles. Ils venaient de courir 42 kilomètres. Mais sincèrement, je comprenais pas.
Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ils se sont décidés à courir un marathon à, je sais pas, ils avaient quel âge tes parents?
Eh ben, ma mère, c'est pour ses 50 ans. C'est pour ses 50 ans, en fait, qu'elle a décidé de courir un marathon.
Mais bon.
Ouais, c'est...
Pourquoi vous... le marathon, c'est le truc sans doute qui est le plus dur, enfin, l'un des trucs les plus durs à faire, en tout cas ouais. les plus accessibles. Pourquoi? Tu sais ou pas?
Alors bon, après c'est plus profond. Il y a un sujet qui vient de... En fait, ma maman a perdu son petit frère.
Ouais.
Elle l'a perdu il y a... c'était il y a 4 ans, 4-5 okay. ans. Ouais, il y a 5 ans. Et donc Justin, qui était mon oncle et qui avait 25 ans. À l'époque, en fait, on était très proches en âge, on avait 5 ans d'écart. Et il s'est suicidé.
Okay.
Donc ça a été une histoire de famille assez triste, assez bouleversante. Et en fait, Justin, quand il avait 15 ans, avait couru les 20 km de Paris en trafiquant son certificat médical. Il était fan de course à pied. Et du coup, quand il est décédé, toute la famille, parce que c'est ma maman qui est belge, donc Justin était belge aussi, et toute ma famille belge, du coup, a décidé, en l'honneur de Justin, de venir courir les 20 km de Paris à Paris, l'année où il est décédé.
Okay.
Et en fait, ça a mis toute la famille dans la course à pied. Mais moi, j'étais à l'étranger, donc je voyais ça de loin, je trouvais ça trop beau, trop génial, mais j'étais pas dedans.
Pas concernée.
Pas concernée. Et donc, en fait, toute ma famille s'est mise à courir, ma mère à fond, mon père aussi, ma sœur aussi, dans le but de le faire pour Justin, d'avoir cette médaille pour lui. Et finalement, une fois qu'ils ont eu la médaille pour lui, c'est devenu comme une piqûre où ils se sont dit, mais on a envie de continuer de courir, on a envie d'aller plus loin. Donc tu vois, finalement, c'est venu un peu d'une tragédie avec okay. un hommage à je vais me dépasser et ça me fait du bien. Donc, ouais. Ça a été, en fait, ça a été un peu un moyen de résilience et de passer à autre chose. Et finalement, tout le monde a senti que ça apportait quelque chose. Donc,
d'accord. Et donc, de fil en aiguille, tes parents courent un semi, puis après ils décident de courir.
Puis après,
le
ma
marathon.
Mère dit, bah attends, c'est l'année de mes 50 ans, clairement, j'ai envie de courir un marathon. Voilà, alors ça, Franchement, il faudrait que ma mère soit ici pour qu'on lui dise pourquoi, en fait, parce que c'est vrai que je ne lui ai pas posé la question. Mais elle a eu envie. Et du coup, elle s'est inscrite toute seule. Et mon père, qui est quand même sportif, et ma sœur ont dit, donc ma grande sœur, qui a 2 ans de plus que moi, ont dit, mais en fait, on a envie de courir avec toi. Parce qu'on a envie de te soutenir. Alors à la base, ils pensaient juste la soutenir et réussir à faire peut-être 20 km, mais pas faire les 42. Et en fait, tous les trois ont passé la ligne d'arrivée des 42 km. Ils ont fait le marathon de Nice-Cannes. Donc c'est de Nice à Cannes. Et ma mère a couru avec ma sœur. Et mon père a réussi à finir ce marathon avec une femme qu'il a rencontrée sur le parcours. Son histoire, elle m'a trop touchée quand il me l'a raconté. Mais il a rencontré une femme sur le parcours qui lui a dit « Ah bah moi, je cours parce que j'ai réussi à vaincre le cancer. » Là, mon père, il s'est dit « Ok, c'est bon, je peux aller jusqu'au bout. » Une fois que je suis avec cette femme, genre, ça lui a donné plein de pouvoir. Et du coup, ils ont été tous les deux avec cette femme qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Et il m'a dit, enfin, les trois vraiment, mes parents et ma sœur, quand ils m'ont raconté leur premier marathon, il y avait tellement d'émotions, il y avait tellement de, ouais, de, je sais pas, d'émotions, d'endorphines. Je sentais vraiment qu'ils avaient vécu quelque chose que je ne connaissais absolument pas et qui les avait bouleversés et qui les avait même changés. Et ils m'ont dit, maintenant qu'on a couru un marathon, on peut tout faire.
Waouh.
Et je comprenais pas. Voilà.
Parce que tu peux très bien être sportif et faire de la GRS comme tu en as fait, je pense, à très haut niveau et tout. C'est pas du tout le même effort que de se dire, OK, je vais chausser des pompes et aller courir pendant 10, 15, 20 bornes, quoi.
Ah ouais, non, c'est clair, ça a rien à voir. Et moi, j'aimais pas du tout courir parce que du coup, j'essayais pour être solidaire parce que je savais qu'il courait. Donc en fait, j'essayais, je mettais mes chaussures, j'ai réussi à aller courir jusqu'à 10 km. À Montréal, où j'étais quand même hyper fière de moi, mais il y avait un truc où je comprenais pas, parce que quand je revenais de ma séance, je pouvais pas dire que j'avais aimé ça, en fait. Donc j'avais besoin de comprendre pourquoi les gens courent, vraiment pourquoi ils se motivent.
Et de remettre ça en perspective avec les réseaux sociaux, parce que je sais pas, enfin je connais pas tes parents, mais j'imagine qu'eux, ils sont pas forcément tenus un carnet de bord, si ?
Ah si, ma mère est sur les réseaux sociaux avant moi. En fait, tout vient d'elle.
Sans deck.
Ouais.
Ah, j'avais pas.
Ma mère sur les réseaux, elle s'appelle May66. Ouais. Tu vois, May66, c'est sa date de naissance. Et elle est à fond, quoi. Elle a, je sais pas, 5000 personnes qui la suivent et elle partage. C'est la plus sportive de la famille.
Okay.
Et elle court énormément et elle partage quand elle court, quand elle fait des activités sportives. Et c'est elle la motivation numéro 1 de la famille, quoi.
Donc c'est ta mère qui t'inspire ton sujet de thèse.
Complètement. Wow. C'est parce qu'elle faisait ça que je me disais, je comprends pas, en fait. Et elle, je te jure, elle échangeait avec des gens sur Instagram. Moi, à l'époque, faut savoir que j'étais sur Instagram juste pour retoucher mes photos, pour pouvoir ensuite les poster sur Facebook. Enfin, tu vois, et puis je connaissais à peine, j'ai un compte privé et tout. Et je la voyais poster des photos d'elle en train de courir, enfin, où elle mettait, yes, j'ai couru 10 km ce matin. Et des gens qu'elle ne connaît pas, qui lui disaient, c'est génial, bravo. Enfin, ils se motivaient entre eux, quoi. Et du coup, je trouvais ça fou. Et je me disais, peut-être que c'est ça la clé. D'avoir des gens qui te disent bravo, donc en fait, t'as envie de te motiver. Du coup, je voulais étudier, je voulais le comprendre.
Ok.
Marrant.
Très drôle. Donc, tu décides de te lancer. Comment ça se passe? Tu décides de te lancer dans cette thèse et de te dire, bah, tant qu'à faire, autant y aller moi aussi, quoi, c'est ça?
En fait, c'est ça. C'est du coup, je choisis ce sujet de thèse. Mon directeur qui me dit, c'est génial, super sujet, on y va à fond. Là, on est en janvier 2017. Je pars en échange à Dauphine, du coup je viens en échange dans mon propre pays, à Paris. Beaucoup plus facile pour se mettre à courir à ce moment-là plutôt qu'à Montréal. Parce que du coup, mon directeur, quand il me dit on choisit ce sujet, il me dit mais 1, tu te mets à courir, et 2, tu te mets sur les réseaux sociaux. Parce que quand on fait une thèse, il faut savoir être empathique, il faut savoir comprendre la communauté qu'on étudie finalement. Et du coup, bah, c'était si simple, en fait. Il fallait se mettre à courir, puis se mettre sur les réseaux sociaux. Non, en vrai, c'était pas du tout si simple. Parce que je suis arrivée à Paris, et là, je me suis dit, OK, va falloir y aller. On était en janvier, il pleuvait. Enfin, c'était horrible. Mais heureusement, j'avais ma mère, du coup, qui me motivait à fond, et c'est elle qui me coachait. On allait courir ensemble. Rapidement, c'est elle qui m'a dit, si tu veux réussir à performer, faut qu'on se fixe un objectif. On fait le semi de Paris en mars. Donc, il y avait le semi-marathon de Paris, mars 2017.
2 mois et quelques plus tard.
2 mois après. J'avais 2 mois pour préparer le semi de Paris. Le plus que j'avais fait, c'était 10 km.
T'avais jamais couru de ta vie ou quasi?
Ouais, je savais pas courir 21 km, clairement pas. Et du coup, on s'est entraînés toutes les semaines. Et en fait, finalement, je prenais du plaisir parce que à chaque fois que j'allais courir, au début, donc j'alternais vachement marche-course. Et en fait, dès que j'arrivais à faire une sortie où j'atteignais 5 km, bah, j'étais trop contente. Et je me disais, bah, dans 2 jours ou dans 3 jours, je recours et là, il faudrait que j'arrive à atteindre 5.5, puis 6, puis 6.5. Et en fait, comme ça, j'ai réussi à augmenter, en fait, ma distance et de manière progressive, pas trop vite. Et à chaque fois, c'était une petite médaille de plus, quoi. Donc, C'est comme ça que j'ai réussi à m'entraîner, à finalement y trouver un certain plaisir, le plaisir de me fixer des objectifs et de les atteindre à chaque fois. Et puis d'aller ensuite de plus en plus vite de l'objectif 10 à 15 kilomètres. Puis ensuite, il y a eu ce semi-marathon du coup en mars que j'ai couru avec ma mère et ma sœur et mon père. En tout cas, on a passé une arrivée toutes les trois avec ma mère et ma sœur. Sous la pluie, je me souviens, c'était horrible. Au bout du 17e kilomètre, bah, ça devenait hyper dur. J'avais les jambes avec des crampes, enfin, qui étaient vraiment, qui voulaient plus avancer. Et en fait, j'ai passé cette ligne d'arrivée, donc, sous la pluie, de manière totalement chaotique, mais, c'était un pur bonheur. Là, c'est la fierté. On te remet la médaille autour du cou. J'avais des endorphines plus dans mon corps. Enfin, j'étais clairement sur un high où, tu vois, je me sentais la meilleure du monde. Et clairement, j'ai eu cette médaille. Et là, je me suis dit, j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Bon, attends, trois jours après, hein, parce que franchement, pendant trois jours, je pouvais plus marcher. J'avais trop mal aux jambes. Mais après ça, je me suis dit, je veux vraiment recommencer. C'est ouf ce que ça te dégage comme émotion, en fait, de passer une ligne d'arrivée.
Est-ce que t'as la sensation que la petite Justine qui prend les partitions et qui les joue comme une tarée, nanani, nanana, pour que ça passe exactement, machin, à aider la plus grande Justine à se dire, ok, en fait, faut taffer et faut y aller comme une zinzin, quoi.
Ouais, complètement. Je pense que clairement, je suis persévérante dans la vie. Enfin, si le bulldozer, si j'ai un objectif, clairement, j'y vais et je vais tout faire pour y arriver. Donc ouais, c'est la persévérance. Et c'est clair qu'il faut du travail, en fait. Tout est du travail. Tout est persévérance, détermination pour atteindre son objectif. Et c'est vrai que, ouais, à le regarder comme ça, en fait, à te raconter toute mon histoire, c'est vrai qu'il y a de ça à chaque fois, dans chaque chose que j'ai entrepris dans ma vie, quoi. C'est vraiment, j'ai persévéré.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu as appris cette science de la persévérance par le jeu et notamment par la musique, quoi, sans doute.
Complètement. Mmh. Ah oui, c'est sûr. C'est par tout ce que j'ai fait quand j'étais petite, en fait, les activités que j'ai faites. Ouais, j'étais toujours dans le but d'aller au bout des choses. Complètement.
Ok, donc tu te lances dans ce semi-marathon.
Ouais.
Tu réussis.
Ouais. Je veux re-signer.
C'est quoi la suite, en fait, une fois que tu te fous sur les réseaux sociaux, j'imagine, ouais. Tu découvres un peu ça aussi.
Exactement. Alors, il y a deux choses. Donc, déjà, je me fixe de nouveaux objectifs. Je me fixe un objectif très haut rapidement en me disant, ok, on est début 2017, je viens de courir mon premier semi. D'ici fin 2017, je veux courir mon premier marathon. On y va direct.
C'est pas normal.
Si. Ça se fait. Faut
t'avais
beaucoup
d'entraînement. T'avais jamais couru de ta vie avant, ou presque.
J'ai toujours été sportive. Oui. Après, ouais, la course à pied, j'étais pas fan. Mais c'est vrai que j'ai une morphologie quand même assez sportive, mm-hmm. Où j'ai pas trop de problèmes à faire du sport. Mais c'est vrai que c'est rapide de en un an courir son premier marathon. Après, si on se met de la discipline et qu'on s'entraîne régulièrement pour que son corps, parce qu'il faut clairement aussi pas avoir des douleurs et tout, enfin le corps, il faut bien l'entraîner, il faut aussi bien s'étirer. Enfin, il y a plein de choses en fait que j'ai appris, mais en fait comme j'étais dans mon sujet de thèse et que c'était ça, j'étais complètement, c'était ma vie en fait. Ma vie était de répondre à cette question, pourquoi les gens courent, me mettre sur les réseaux sociaux, rencontrer des gens et courir de plus en plus pour comprendre. Donc en fait, ça faisait partie de moi pendant toute cette année. Du coup, je me fixe cet objectif. En même temps, je me mets sur les réseaux sociaux. Alors là, d'abord, j'avais étudié tout le truc où je me disais, les réseaux sociaux, apparemment, tous les gens qui courent et qui se créent un compte, il y a le mot « run » dans leur pseudo. Du coup, je me suis fait un petit jeu de mots, je m'appelais Justin Run. Ça, je crée mon compte mars 2017, juste avant d'ailleurs ce premier semi-marathon. J'avais posté d'ailleurs la photo de la médaille avec donc au semi-marathon avec ma famille où j'avais mis tous les hashtags, genre les hashtags semi de Paris 2017, enfin vraiment j'étudiais tout le truc des réseaux sociaux, comment avoir un peu de visibilité, et j'allais moi-même liker tous les gens qui mettaient une photo avec le hashtag semi de Paris 2017, tu vois, c'est où j'allais les féliciter, enfin c'était vraiment rentrer dans cette communauté. Et là il y a plein de gens qui m'ont félicité pour ma course, donc j'étais tout d'un coup trop fière. Enfin, je me disais, c'est complètement incroyable. C'est là que j'ai ressenti les premiers, j'ai touché en fait pour la première fois la communauté de runners qui existe sur Instagram, où les gens me félicitaient et je trouvais ça complètement génial. Donc d'ailleurs j'étais en fait complètement transparente sur mon compte Insta parce que je racontais du coup que je courais, que c'était ma première course, que je me fixais mon objectif de marathon, mais aussi que je faisais une thèse en parallèle. J'étais complètement transparente là-dessus et que justement je voulais comprendre, enfin je racontais mon sujet.
T'avais déjà un peu des expériences avec les réseaux sociaux ou c'était vraiment ta...
Non, première expérience. Enfin, j'avais Facebook avec mes amis, oui. Mais c'est tout. Okay. Donc ouais, c'était ma première expérience avec les réseaux. Et rapidement, je me suis prise au jeu. En fait, comme ça faisait partie de mon sujet, bah, j'étudiais, je regardais tous les comptes, tout ce que les gens partageaient, tous les comptes qui marchaient bien. Et puis, le plus gros travail, j'ai envie de dire, c'était de penser à se prendre en photo à chaque fois que j'allais courir, puis d'essayer d'avoir une tête pas trop moche, tu vois, sur la photo. Enfin, c'était ça peut-être le plus dur.
Un vrai skill, hein.
C'est clair. Franchement, ça, il a fallu le travailler. Et puis, réussir à prendre des photos à chaque fois, à trouver des nouvelles idées, c'était peut-être ça le plus dur, où j'ai pas du tout cet esprit créatif, photographie, en tout cas, pour le faire. Mais je me suis prise au jeu. Et du coup, ma mère aussi m'aidait. Tu vois, c'était elle qui me prenait en photo. Et donc, à côté de ça, bah, du coup, j'ai continué dans mes objectifs et je signe pour un nouveau semi-marathon qui est le semi-marathon d'Ottawa. Le 28 mai 2017. Et donc là, j'avais 2 mois à nouveau pour me préparer pour ce deuxième semi. Et je commence à médiatiser sur les réseaux sociaux que je m'entraîne pour ce semi-marathon. Et il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens. À l'époque, rapidement, en fait, j'ai pris pas mal d'abonnés. J'avais environ 1000 personnes qui me suivaient, ce qui était vraiment pas mal. Et donc, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent « C'est sûr, t'as fait 2h09 au semi de Paris. C'est sûr que là, tu vas mettre moins de 2h avec les temps que tu fais sur tes entraînements. » Et moi, en vrai, j'étais complètement débutante, donc je savais pas du tout ce que c'était. Je me comparais aux autres sans trop savoir. Et en fait, j'ai fait ce semi à Ottawa le 28 mai 2017. Sous une chaleur extrême, il faisait 35 degrés, personne s'y attendait. Je me suis très très mal hydratée, j'avais pas pris d'eau avec moi. Le drame est arrivé, j'ai fait un malaise au 19e kilomètre, donc 2 kilomètres avant la ligne d'arrivée. Et j'étais complètement en hypoglycémie, déshydratation, il y avait même un peu d'insolation par là. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Du coup, j'ai fait ce malaise, j'ai pas passé la ligne d'arrivée, je n'ai pas eu de médaille, et là, clairement, je me suis réveillée de ce malaise, j'ai repris un peu mes esprits après une déshydratation de 24 heures, où j'ai dit, j'arrête de courir, je change de sujet de thèse, je supprime mon compte Instagram, je suis pas faite pour ça, on arrête tout. Là, j'étais complètement au bout de moi-même.
C'était ton premier échec?
Complètement.
De toute ta vie?
De toute ma vie, sais pas, mais un échec qui m'a vraiment mis une énorme claque, quoi. Où j'ai été vraiment déçue de moi-même. Et je me disais que je n'étais pas faite pour ça.
T'avais pas trop raté jusque-là. T'étais bonne élève.
Ouais, jusque-là, c'est vrai que... C'est vrai que jusque-là, tout allait plutôt bien.
Ouais. Ça m'a tout l'air d'être un premier échec.
Et en fait, du coup, je l'ai très très mal vécu. Et là, j'ai eu l'aide de mon père qui m'a dit « Non mais t'es humaine, enfin, ça arrive, tu vois, t'es... » Bon, c'est sûr que là, j'ai compris que j'avais un mental d'acier parce que clairement, mon physique me lâchait depuis 4 kilomètres avant ça. Mais mon mental, il disait, tu vas pas lâcher, tu vas courir super vite, puis tu vas y aller. Donc, arriver au point de faire un malaise, c'est vraiment le mental n'est pas du tout en train d'écouter le corps. Et en fait, c'est surtout mon directeur qui m'a aidé aussi et qui m'a dit, mais attends, t'es humaine, poste ce qui t'est arrivé sur les réseaux sociaux. Parce que du coup, les gens qui me suivaient m'écrivaient en disant « Alors, ce semi, comment ça s'est passé ?» Puis il y en a même qui allaient regarder sur le site et il y avait écrit « Abandon ». Donc, ils m'envoyaient des photos, en fait, où ils voyaient mon nom et qui écrit « Abandon ». Donc là, j'ai commencé à toucher quelque chose. Je me disais, c'est complètement dingue. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que je m'étais, en fait, dans ma tête, je m'étais dit, les gens me disent que je suis capable de faire moins de 2 heures, je veux leur prouver que je suis capable et qu'ils ont raison, et que je sais faire moins de 2 heures, sans savoir vraiment à quoi ça correspond, et du coup, j'étais vraiment partie hyper vite en me disant, j'ai cet objectif et je vais pas le lâcher de vue, quoi. Donc en fait, je courais même plus pour moi, mais je courais finalement pour les réseaux sociaux. Et c'est là où, du coup, j'ai vachement appris. J'ai finalement décidé de le poster sur les réseaux, de raconter mon échec. Et c'est à ce moment-là que j'ai énormément de monde qui ont commencé à m'écrire en me disant « Mais c'est normal, t'es humaine, ça arrive à tout le monde. » Et j'ai pris des abonnés petit à petit. À partir de cette date, les gens partageaient mon histoire qui était un simple échec, tu vois. Mais c'est à ce moment-là où j'ai senti la puissance de la communauté qui m'aidait en fait à me relever. Et surtout, c'est là que j'ai pris des abonnés de plus en plus. Enfin, ça a été un peu le début de quelque chose.
Ok. C'est quoi la suite alors?
Et la suite, j'ai continué de poster sur les réseaux, j'ai continué de m'entraîner. J'ai fait mon premier marathon en novembre 2017.
Oui, donc tu t'as quand même réussi à...
Ouais, j'ai réussi à me relever, à recourir, à finalement courir en fait pour moi. Tu vois, comprendre en fait que je le fais pour moi et pas pour les autres. Et
c'est un peu le drame de l'époque, hein, c'est que t'as la sensation de... Quand tu te mets en scène comme ça, t'as la sensation de finir par devoir quelque chose ouais. aux autres.
Exactement, tu sais plus trop, bah c'est ça, c'est... tu sais plus si tu le fais pour toi ou si tu le fais pour eux. Et c'est là où j'ai compris en fait que c'était moi avant tout. Et du coup, ça m'a vachement aidé à... Bah, tu vois, par exemple, la course à pied, moi j'adore faire du longue distance, donc courir des marathons... même 120 km là récemment, je cours beaucoup plus maintenant, mais je suis pas du tout sur la vitesse. C'est plus quelque chose que j'aime, puisqu'en fait quand j'ai essayé, je suis tombée. Donc je pense qu'un jour je m'y remettrai, mais aujourd'hui j'ai pas assez de temps pour m'entraîner, pour être quelqu'un qui sprint ou qui fait de la vitesse. Donc je prends du plaisir à courir du longue distance, mais à mon rythme, de manière d'ailleurs un rythme très, je veux pas dire qu'il est lent, mais enfin banal quoi, basique pour de la course à pied.
Pour boucler sur la course à pied, donc tu disais que tu as fait des très longs trucs. Alors je t'ai suivi, moi, dans ton. C'est quoi ? C'est un ultra trail ? Alors c'est ça qu'on... C'est comme ça qu'on
l'appelle ? Ouais, c'est un peu un ultra. Ouais, c'est... ouais, ça s'appelle un ultra trail. Là, celui que j'ai fait, c'est le Half Marathon des Sables, donc aux Canaries, que j'ai fait en septembre cette année, mais que j'avais déjà fait aussi l'année dernière, donc deux années de suite. Une fois avec ma mère, une fois avec toute la famille qu'on a réussi à embarquer. Et là, c'est 120 km. Dans le désert, en autosuffisance alimentaire, donc avec un sac à dos de 9 kilos, où on porte toute notre nourriture, enfin tout pour vivre pendant 4 jours, sauf l'eau qu'on nous donne là-bas. Et là, c'est en 3 étapes. Donc première étape, 30 kilomètres dans le sable. Ensuite, on dort en bivouac. Deuxième étape, 60 kilomètres. On redort en bivouac, on a une journée off sur le bivouac, et puis quatrième jour et dernier jour, 30 km à nouveau pour arriver à la ligne d'arrivée finale, médaille, et après on a 3 jours à l'hôtel pour se reposer.
Alors comment tu fais pour arriver de... Moi, je déteste courir et je regarde mes parents qui font leur premier semi-marathon avec des yeux comme ça. Allez, toute la famille, on y va, on va courir 120 putain de bornes.
Ouais, bah là tu vois c'est le bulldozer, parce que clairement là c'est moi qui vais emmener mes parents là-dedans. Ils m'ont emmené dans la course à pied, mais après ça je leur ai dit on va aller faire plus. Donc en fait c'est que quand tu te mets dans la course à pied, en tout cas moi c'est ce que j'ai découvert en 3 ans, là bientôt ça va faire 3 ans que je me suis mise à courir, c'est que dès que t'as atteint un objectif, t'as envie d'en refaire un et d'essayer d'aller plus loin. Et bon, aujourd'hui, tu vois, j'ai couru 120. Je vais pas dire que l'année prochaine je fais 200, clairement pas. J'ai aussi mes limites. Mais ouais, pendant ces 2 années, j'avais besoin de repousser mes limites et d'aller encore plus loin. Et sincèrement, quand j'ai couru mon premier marathon, là, je me suis dit, sincèrement, maintenant tout est possible. En fait, je me rendais compte à quel point mon mental était fort, parce que pendant le marathon, je sais pas dans ceux qui vont nous écouter s'il y en a qui en ont déjà couru, mais c'est, il y a beaucoup de fois où le mental il nous dit mais arrête-toi en fait, enfin pourquoi tu fais ça,
pourquoi
voilà,
c'est tellement mieux au chaud.
Exactement, le mental nous dit mais tu t'arrêtes maintenant, on s'en fout de la médaille. Et il y a l'autre côté qui nous dit mais non, mais clairement vas-y, parce que tu seras tellement heureux à la fin. Et en fait, c'est ça, quand tu finis cette course, tu te dis, mais c'est ouf de quoi je suis capable, de quoi mon mental est capable. Et clairement, quand j'ai fait les 120 km, bah, c'était l'année dernière, c'était juste avant de lancer Respire. Mais là, je me disais, mais en fait, j'ai plus peur. En fait, j'ai plus peur de rien, finalement. Je peux y aller, quoi. Je suis capable d'aller au bout des choses, je suis capable de dépasser mes propres limites.
T'avais peur avant de te lancer dans les 120 bornes ?
Pour les 120
Ou alors tu l'as fait de façon un peu inconsciente en te disant...
Non, j'avais super peur. Ouais. J'avais super peur. Sincèrement, je pense que je dormais hyper mal avant de partir. Je m'étais lancée dans cette aventure avec ma mère, mais je me posais tous les jours la question pourquoi. En plus, il y avait une préparation énorme sur le physique.
Pourquoi
Je l'ai...
T'as trouvé ou pas la réponse
Moi,
à ta question?
Bah finalement, j'ai adoré. J'ai même pas répondu à pourquoi je m'étais inscrite à ça. Je pense que tout est arrivé un peu au même moment. Donc c'était cette année 2018 où... bah du coup, je t'en ai pas parlé, mais oui. Donc début 2018, on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine. Et ça a été, tu vois, pendant... toute mon ascension de course à pied, où genre je faisais toujours de plus en plus, toujours essayer d'avoir la meilleure hygiène de vie, et tout d'un coup, bam, claque dans ma figure, j'ai une boule dans la poitrine, je vais faire des examens, j'ai une tumeur bénigne qui est bénigne, mais à contrôler tous les 6 mois, il faut faire super attention. Et donc là, ça m'a vraiment... c'est comme une douche froide, quoi. Ça m'a stoppé dans mon truc, où je me dis, alors déjà, je suis pas éternelle. En fait, même en ayant la meilleure hygiène de vie, en courant énormément, bah, finalement, je peux pas avoir une santé de fer.
T'as quel âge ?
J'ai 25 ans. Donc à l'époque, là, j'en avais 23.
Et
Et là, ça a été un énorme déclic pour moi. Ou un déclic déjà où c'est OK, faut que je prenne soin de moi. Et l'autre déclic, ça a été il faut que je fasse ce que j'aime dans la vie. Enfin, tu vois, j'étais en train de finir ma thèse, finir mes études. Donc aussi un gros moment de la vie où tu te dis mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je vais travailler pour quelqu'un alors que j'en ai pas envie? Enfin, c'était vraiment un gros moment. Et puis alors la chose la plus importante qui s'est passée à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à remettre en question ce que je mangeais, ce que j'appliquais sur mon corps au quotidien, les produits d'hygiène. Et là, j'ai découvert tous les travers des déodorants. Tous les articles qui circulaient sur Internet pour parler genre de la nocivité des déodorants, des ingrédients qui sont présents dedans et que personne n'en parle. Et enfin, si des gens en parlent, mais pas assez. Mmh. Et surtout que ces déodorants continuent d'être vendus sur le marché et recommandés et que c'est pas normal. Et là, je me suis rapprochée de toutes ces applications. Yuka, à l'époque, n'était pas sur la cosmétique, mais sur l'alimentaire. Maintenant, ils y sont passés. Mais il y avait Clean Beauty, Inky Beauty. Et en fait, j'ai commencé à scanner tous les produits. Et là, j'ai pris hyper peur. Je me dis, bon, j'avais 23 ans et je me dis, c'est pas normal. J'ai pas du tout fait de biochimie dans mes études. Je comprends rien à ces cosmétiques. Mais j'ai envie de comprendre. J'ai envie de faire confiance dans les produits que j'utilise quotidiennement. Et ça, ça a été un énorme déclic pour moi. Début 2018, il y a un peu tout qui est arrivé au même moment. Je cherchais un déodorant, j'en parlais. Du coup, sur les réseaux sociaux, j'avais créé cette communauté qui avait grossi. Là, j'avais 20 000 personnes qui me suivaient. Donc, j'avais atteint un stade quand même où j'avais des vrais échanges avec ma communauté, même si c'était surtout autour de la course à pied. Et en fait, j'ai commencé à parler de déodorants, de produits. Et là, je me suis rendu compte que j'étais clairement pas la seule à me poser des questions. Donc là, ça a fait tilt dans ma tête. J'étais pas spécialement destinée à me mettre dans l'entrepreneuriat.
Ceci dit, tu viens quand même de dire tout à l'heure que t'avais pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre.
Ouais, travailler pour quelqu'un où ça me plairait pas.
Ah,
non.
Ok, d'accord.
Je pourrais, si, je cherchais un boulot à l'époque. À l'époque, je rêvais de bosser pour Paris 2024.
Ok.
Donc, tu vois, j'avais qu'une envie, c'était, je voyais Paris 2024, je m'étais mise dans le sport, dans la course à pied, tout d'un coup, j'étais passionnée de sport. Et j'avais qu'une envie, c'était de travailler pour ça.
Ok.
Du coup, ouais, j'ai aussi pris la décision de rentrer à Paris, parce qu'en fait, j'étais encore à Montréal à l'époque. Enfin, voilà, plein de choses qui se sont passées dans cette année. Et en fait,
t'es pas resté à Montréal d'ailleurs ?
Je pense que c'est le fait d'être loin de la famille.
Ah.
C'était pas facile. Le fait d'avoir eu cette créer ma communauté en France. En fait, c'est bête, mais je me suis créé un réseau en France juste en sortant de Montréal avec ma thèse. Et là, je me disais, mais c'est fou, en fait, je peux rencontrer du monde en France et peut-être travailler en France. Et même si Montréal, j'adorais, je me suis dit, je vais essayer de voir si je peux trouver du travail en France, puis je retournerai à Montréal un peu plus tard.
T'es très famille, hein, c'est important pour toi.
Ouais, je suis très famille. Très famille, mes familles et proches. Et puis, tu vois, c'était le moment aussi où tous mes amis, donc la nouvelle famille, entre guillemets, qu'on s'était créée à Montréal, en fait, tout le monde repartait quelque part ou allait étudier ailleurs ou travailler ailleurs. Et en fait, la famille de là-bas avait complètement explosé et je me sentais plus non plus aussi bien qu'avant.
Okay.
Donc, c'était un bon moment pour essayer de revenir voir ici. Et surtout, j'ai rencontré les fondateurs des Étoiles du Sport. Je sais pas si tu connais, ouais, donc un réseau.
Je t'ai suivi, je te suis sur. Je suis ta story, n'est-ce pas?
Donc, Étoiles du Sport, qui est un réseau d'athlètes olympiques, donc des athlètes olympiques de tout âge, en fait, qui coach les futurs athlètes français, donc les espoirs du sport français, pour les préparer à la médiatisation, à la gestion du stress, à l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, j'interviens là-dessus. Et en fait, les Étoiles du Sport, je les ai rencontrées début 2018 et ils m'ont proposé un poste pour que je bosse avec eux.
Okay.
Et j'avais très, très envie d'accepter. Mais en même temps, il y a eu ce truc où on m'a détecté ma tumeur. Je cherchais des produits d'hygiène. J'avais plus confiance dans les produits d'hygiène. Et mon déclic, ça a été de rencontrer Thomas, qui est mon associé aujourd'hui, qui a fait HEC entrepreneur, qui avait déjà lancé une première entreprise, enfin vraiment entrepreneur dans l'âme, un an de plus que moi.
Comment vous rencontrez ?
On se rencontre par hasard, ami d'amis, HEC Paris, HEC Montréal. On se rencontre, lui, passionné par plein de choses, clairement entrepreneur qui se passionne de plein de choses dans la vie, et à ce moment-là, beaucoup sur les communautés digitales. Et du coup, on se rencontre, moi je venais de finir... du coup ma thèse sur les communautés digitales et du coup on en parle, et en fait coup de cœur professionnel, je lui parle de ma tumeur, enfin tu sais, il y a des gens comme ça, parfois tu les rencontres puis il y a un feeling énorme et on se parle de plein de choses je lui parle de ma tumeur, je lui parle des déodorants, tout d'un coup j'ai plus confiance, je cherche un déo, on se parle de plein de choses et tout d'un coup déclic, enfin je sais pas comment, on se dit pourquoi nous on le ferait pas, en fait, ce déodorant qu'on trouve pas sur le marché.
Et vous dites ça comme ça dans une soirée?
Pas une soirée, mais on avait été boire un café.
Okay.
Et pendant un long moment, on parlait. Et tout d'un coup, on se dit, mais en fait, tous les deux, on est hyper complémentaires. Ça maturait. Et moi, je me disais, oh putain, me lancer là à 25 ans. Enfin, 24. Non, 20.
T'avais 20.
J'avais 24, 23. J'avais 23 quand on s'est rencontrés. Me lancer à 23 ans. Alors, hyper drôle quand même quand je suis allée voir mes parents et que je leur ai dit, j'ai rencontré un garçon, il s'appelle Thomas, il est super sympa. Je vais m'associer avec lui pour qu'on lance un déodorant naturel. Et du coup, je vais refuser le CDI qu'on vient de me proposer. Mes parents ont un peu rigolé en me disant, mais t'es sûr, ils m'ont bien challengé.
Pourquoi tes parents dans la vie?
Bah, mon père est quand même dans l'entrepreneuriat.
Ouais.
Mon père, il a repris l'entreprise familiale qui fait de l'aménagement de véhicules utilitaires.
Okay.
Donc, c'est très industriel.
C'est de la niche, quoi.
Ouais, c'est très niche, très industriel. Mais il s'éclate, c'est familial. Il est associé avec sa sœur. Et il a repris, en fait, l'entreprise familiale qui faisait à l'époque de l'outillage. Et il a créé cette entreprise en interne il y a quelques années, donc entrepreneur dans l'âme. Et ma mère donc est mère au foyer, mais clairement qui vient d'une famille d'entrepreneurs. Elle a fait styliste, très créative,
okay.
Et qui vient d'une famille d'entrepreneurs en Belgique. Ma famille avait une grande usine de textile.
Okay.
Donc voilà, beaucoup d'entrepreneurs dans la famille, clairement, beaucoup de femmes entrepreneurs. Ma grand-mère la première, puis ma tante. Donc même si j'étais pas dans l'optique, tu vois, début 2018, de me dire « je suis faite pour être entrepreneur », j'étais quand même entourée de personnes qui ont osé l'entrepreneuriat dans leur vie. Et du coup, je me suis dit, je sais pas, j'ai cru au destin. Moi, je crois vachement aux signes du destin. Enfin, tu vois, parfois, il y a des rencontres qui font que.
C'est le destin ou c'est une intuition, tu penses?
C'est difficile.
Que
ouais,
le destin,
c'est de l'intuition.
Un peu mystique.
Ouais, non, je suis pas dans le truc mystique, pas du tout. Mais plutôt l'intuition. Moi, c'est vrai que je fonctionne énormément au feeling. Enfin, déjà, rien que là, pour embaucher des gens, clairement, c'est ce que je me sens bien avec eux ou pas. Donc, l'intuition, ou je sais pas, à ce moment, début 2018, je me suis dit, la rencontre avec Thomas, c'est peut-être un signe et j'ai envie de creuser. Et j'ai décidé de choisir l'entrepreneuriat avec lui. On s'est fixé une deadline en se disant on va bosser ensemble pendant un an et demi, là à essayer, si d'ici un an et demi, donc deadline décembre 2019, exactement en ce moment.
Okay.
Si Respire n'a pas percé, entre guillemets, on arrête. On n'a pas envie de travailler, enfin de serrer la ceinture pendant des années et des années pour créer quelque chose qui ne fonctionne pas. Mm-hmm. Donc du coup, rapidement, on s'est fixé des objectifs. Tu as toujours cette histoire d'objectifs, que ce soit en course à pied ou dans ma vie. Et là, dans ma vie pro, c'était vraiment se fixer des objectifs et essayer stratégiquement d'atteindre ces objectifs. Donc là, il fallait, tout était à faire puisque lui connaissait un peu l'entrepreneuriat, mais moi pas du tout. Et du coup, on a, l'objectif, c'était donc de créer un déodorant qui soit naturel et efficace, mixte et made in France. Du coup, la première chose à faire, c'était de contacter des laboratoires pour savoir comment on fait un déodorant qui soit naturel, efficace.
Vous savez rien, quoi, à l'époque.
Rien du tout. Tous les deux, on sait clairement pas faire des déodorants. Même si moi, j'ai cherché sur Google. Enfin, tu vois, j'ai
cherché.
C'est
pas un truc que tu cherches sur Google, comme laboratoire
non,
qui
c'est...
fait des déodorants.
Ouais, mais si. En fait, clairement, c'est ça qui m'a aidé. Parce que, enfin, vraiment, je cherche.
C'est comme ça que t'as trouvé.
Ouais. Et puis même, je dépiotais toutes les listes d'ingrédients de tous les déodorants qui existaient sur le marché. Je cherchais tous les ingrédients. Enfin, tu vois, vraiment, j'avais des fiches et des fiches pour comprendre vraiment comment ça se passe en cosmétique. Et du coup, je contactais des laboratoires. J'y allais au culot. Et finalement, il y a un labo qui a bien voulu... Enfin, un labo. Non, il y en a plusieurs qui ont bien voulu me rencontrer. Mais un qui a été vraiment hyper cool. Enfin, donc c'est Véronique, qui est la fondatrice d'un labo qui est à côté de Rennes. Et qui m'a... Enfin, vraiment, il y a eu un super feeling. Et elle a dit, bah, OK, je vous accompagne. J'aime votre projet. Et du coup, on a développé plein de formules ensemble. On a d'abord travaillé ensemble en se disant, on repart de zéro, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un déodorant. Donc elle nous expliquait parce qu'on n'y connaissait rien. Et en même temps, nous, on regardait ce qui existait sur le marché et qu'est-ce qu'on aimait bien comme type de texture. Et on faisait tester à des gens de ma communauté. Rapidement, je faisais venir des gens de ma communauté que je rencontrais. En fait, je les faisais venir là où on travaillait. Du coup, on s'était pris un petit espace de coworking pour les rencontrer et pour échanger avec eux et leur demander... qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aimez dans un déodorant? Et donc, en fait, on a eu le sentiment de pas du tout travailler à deux sur ce projet, mais travailler déjà avec le labo et travailler main dans la main avec nos futurs consommateurs, donc avec des gens de ma communauté qui nous aidaient.
Et le labo travaille gratuitement à l'époque pour vous?
Non, il a fallu chacun investir un petit peu d'argent. Donc, Thomas en avait un peu de côté. Moi, ça a été s'il te plaît, papa, est-ce que tu peux m'aider? Donc, heureusement, quand on a des parents derrière nous, c'est hyper sympa. Ils ont pu m'aider, puis je leur dois bien ça maintenant. Je leur rendrai un jour. mais ouais, enfin, j'ai eu la chance d'être bien entourée à ce moment-là. Et du coup, non, il faut quand même investir un petit peu. Il y a un petit peu d'économie à mettre, donc c'est un peu un pari, en fait, dès le début. Mais voilà, donc on a développé cette formule, tu vois, pendant 9 mois, on a travaillé main dans la main avec Véronique, à faire des allers-retours, à essayer de trouver la meilleure formule. Là, j'ai été confrontée à quelque chose de super difficile. C'est le moment où on va dire stop, la formule est bien et on arrête les recherches. Parce qu'on a testé 28 formules. Enfin, tu vois, c'est hyper difficile, clairement. Bon, au tout début, il y avait des formules qui marchaient pas du tout. Et après, au fur et à mesure, elle marchait de mieux en mieux, mais en fait, il fallait s'assurer qu'elle plaise à tout le monde. Donc, on les faisait tester à plein de gens, et puis, tu sais, t'as toujours une personne qui s'est dit, oh, je sais pas trop. Ouais. Et donc, ça, c'était super difficile. Donc, aujourd'hui, une de mes devises, tu vois, c'est de dire, le mieux est l'ennemi du bien. C'est, voilà, là, c'est, ta formule, elle est très bien, on va s'arrêter, elle plaît à quasiment tout le monde. Donc, on la lance comme ça, et on arrête d'essayer de perfectionner, sinon, on lancera jamais. Et c'est là qu'on s'est retrouvés, novembre 2018, un peu avant, du coup, 2 mois avant, où on avait trouvé une formule qui était très correcte. Et on s'est dit, en fait, en cosmétique, il y a plein de tests réglementaires à passer. Et là, on s'est dit, soit on attend encore un bon 6 mois pour passer tous les tests réglementaires et être capable de mettre le produit sur le marché, soit on y va en crowdfunding. Et du coup, on fait des préventes où, en fait, on raconte notre histoire, notre projet. Et ça nous permet de créer de la première notoriété pour notre projet, 2, de jauger l'intérêt du marché, voir si ça prend ou pas, et 3, de financer notre première production derrière, parce que clairement, on n'avait pas du tout les moyens de financer la première prod. Et du coup, on a travaillé là au marketing, tu vois, de tout ce crowdfunding, se dire, OK, c'est quoi l'image de marque, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre mission, pour raconter l'histoire de la meilleure manière possible et puis le plus adapté à nos valeurs. Et en fait, on l'a fait de manière hyper authentique. Sincèrement, je trouve que tout a été un peu spontané, tu vois, c'est vraiment adapté à Thomas et moi.
Pardon, elle vient d'où l'idée de la marque?
L'idée de la marque de Respire?
Oui, de Respire.
Le nom Respire. Ouais. Alors, dès le début, en fait, on voulait un mot qui veut dire quelque chose. On voulait pas inventer un mot. Et on voulait un verbe d'action, potentiellement. Donc, soit un verbe d'action, soit quelque chose aussi qui fasse penser au bien-être, au prendre soin de soi. Et tu vois, c'est marrant parce que nos deux premiers noms, avant Respire, il y a eu Alive. Donc, pour nous, ça voulait dire un peu se sentir vivant. Mais finalement, il nous plaisait plus. Et le deuxième nom qu'on a eu, c'est Decide. Tu vois, ça se disait en anglais, en français, il fait aussi quelque chose qui se dit en anglais et en français. Et decide, c'était genre, décide de prendre soin de toi. Voilà, décide-toi, quoi, de faire ce changement. Et après, on s'est dit, franchement, un déodorant dans les rayons avec écrit décide, c'est un peu trop autoritaire. Et en fait, Respire, c'est venu comme ça, dans une discussion. Et il s'avère que pour nous, ça regroupe les deux. Ça regroupe ce verbe d'action où tu respires, tu vois, tu prends une grande inspiration et en même temps tu prends soin de toi. Et puis tu fais respirer ton corps, finalement, à cause de tous les produits chimiques qu'on s'applique sur le corps depuis des années. Donc pour nous, Respire, ça regroupait vraiment tout ce qu'on vous souhaitait véhiculer dans la marque.
Ok.
Donc on est parti là-dessus.
Et cette fameuse vidéo, donc.
Et ce fameux crowdfunding qu'on a commencé par une vidéo de moi, où en fait une vidéo. Alors dès le début, on a fait le choix aussi, tu vois, nous deux, de se répartir les rôles. Et comme c'était mon histoire, que j'étais la plus à l'aise avec les réseaux sociaux, bah en fait c'est moi qui racontais l'histoire et on s'est dit ça sert à rien en fait d'être les deux à se mettre en avant, à parler, enfin à incarner la marque finalement, parce qu'en fait ça nous fait perdre du temps, tu vois, autant chacun être sur un pôle différent. Et du coup rapidement on s'est dit bah moi je vais prendre la parole, je vais raconter mon histoire. Et du coup ça s'est fait naturellement, j'ai fait une vidéo où j'ai raconté face caméra ma tumeur, mon histoire, le déodorant. Et cette vidéo qu'on a postée sur les réseaux du coup le 5 novembre 2018 a fait plus de 3 millions de vues en un mois. Ça a été monstrueux. Et ça a été du coup le tout début de Respire. Il y a eu énormément d'amplification sur les réseaux sociaux. Tu vois, on n'a rien sponsorisé, vraiment aucune pub. Uniquement de l'organique où la vidéo a été relayée. Et ça nous a permis de prévendre 21 000 déodorants en un mois. Ce qui a été énorme. Genre clairement, on s'y attendait pas du tout, même si on avait travaillé hyper fort pour se dire qu'on alignait tout, enfin tu vois, on travaillait vraiment, on s'assurait de cocher toutes les cases quoi pour que tout soit bien aligné et que le crowdfunding fonctionne. Mais dans nos têtes, sincèrement, la veille de lancer, déjà je me disais, si ça se trouve personne ne va acheter à part mon père, et en plus je me disais, mais à la limite mon objectif vraiment dans ma tête, c'est d'en prévendre 2000 ou 3000, je serais trop heureuse. Bon, vraiment 2000, parce que je pensais pas du tout être capable de dépasser les 2000. Mais alors là, quand on a dépassé les 2000 en 48 heures, je comprenais rien à ce qui se passait, quoi. C'est là, tout d'un coup, je suis rentrée. Sincèrement, depuis novembre 2018, je suis dans une machine à laver. J'en sais.
Ah, t'es encore aujourd'hui, tu...
Ouais, encore aujourd'hui, parce que tout va hyper vite. Tout va hyper vite, quoi. Donc, on s'est retrouvés 7 décembre 2018, à la fin de ce crowdfunding. On avait prévendu 21 000 déodorants. Mais... mon compte Instagram avait explosé, mon compte LinkedIn avait explosé. J'étais passée de 400 relations à 50 000 en un mois. Enfin, les réseaux sociaux de Respire avaient explosé. Et j'avais énormément de messages de gens que, bah, que je connais pas du tout, quoi, de futurs consommateurs qui venaient de nos premiers, en fait, contributeurs, qui me félicitaient, qui m'encourageaient. Et ça nous a donné énormément de force à Thomas et moi. Ça nous a vraiment, enfin, je le dis aujourd'hui, Respire est né grâce à la communauté, grâce à nos premiers contributeurs qui ont cru en nous, qui ont relayé le message et qui nous ont aidés finalement.
Mais à l'époque, quand tu lances, en plus, quand vous lancez ce truc, vous êtes même pas sûr que votre produit passe les tests de réglementation.
Alors,
parce que tu disais que tu avais quelques mois de...
Ouais, en fait, en cosmétique, t'as toujours 6 mois à peu près de tests réglementaires à passer. Et quand t'as un produit, tu l'envoies en test, vu que les tests coûtent cher et sont très longs, il y a quand même des pré-tests qui sont faits, oui, où le labo peut nous assurer à 99% de chances que ça passe. Donc okay, en vrai, j'étais un peu inquiète, mais aujourd'hui, je le saurais plus du tout, okay, tu vois, quand un laboratoire me dit à 99% de chances que tout passe. C'est sûr que si par contre ça passait pas, fallait attendre un an de plus, quoi, parce que redévelopper une formule, les tests de stabilité et tout. Mais en fait, non, on savait déjà que ça allait passer. Et du coup, là, on a passé de novembre à mai, 6 mois, à donc finir les tests, mettre en place toute la supply chain, parce que là, clairement, moi, à la base, je m'étais dit, les colis du crowdfunding, je vais les envoyer moi-même. Clairement, 21 000, tu oublies ça tout de suite. Je n'allais pas faire les paquets moi-même. Donc là, fallait trouver un logisticien. Enfin, là, il y a beaucoup de choses où, clairement, enfin, vraiment, le 7 décembre 2018, quand cette campagne s'est terminée, j'ai pris une claque dans ma figure où je me suis dit, OK, mais là, j'ai une énorme responsabilité. J'ai vraiment lancé une boîte, quoi. Respire existe et maintenant, je dois livrer 21 000 déodorants.
Donc, t'avais pas cette sensation-là jusque-là ?
Bah si, j'avais la sensation de me lancer dans un projet qui était cool, ouais, mais sans trop savoir, tu sais, tu sais jamais en fait, tu fais des prédictions, mais tu fais des prédictions sur du vent, hein. Enfin, c'est pas parce que les gens qu'on rencontre nous disaient votre projet il est génial et ça va marcher, qu'on sait si les gens vont vraiment passer à l'acte d'achat. Mmh. Donc c'est là où ça a été génial. On a passé 6 mois à apprendre énormément, 6 mois qui sont passés à une vitesse, j'ai jamais vu ça, où on a mis tout en place, la logistique, on a embauché notre première personne en communication pour nous aider sur les réseaux sociaux, parce que clairement j'arrivais plus à gérer, tu vois, tous les messages, tout le SAV, et là rapidement on s'est posé comme deux vrais entrepreneurs à avoir une vision stratégique, à créer un vrai business model, et ça tu vois, c'était rien qu'en début d'année, quoi. C'était, ah, il y a quelques mois.
Vous l'aviez pas encore fait jusque là dans la création de votre projet, parce que vous, ouais, étiez plutôt dans le lancement du premier produit, quoi.
Ouais, si, on était dans le lancement du premier produit, et tu vois, on n'avait pas trop pensé what's next, en fait. Et là, rapidement, on s'est dit, OK, mais en fait, là, on veut lancer un deuxième produit, on veut vite aller sur la crème solaire, tu vois, un des autres produits. Moi, qui me fascinait, c'était la crème solaire que tout le monde applique chaque été, enfin, peut-être à d'autres moments dans l'année, quand on va au soleil. Mais c'est un produit que tu es obligé d'utiliser, sinon, ça a un impact clairement direct sur notre santé. Si on n'en met pas, c'est très, très grave. Et je me disais, mais en mettant, en fait, est-ce que cette crème solaire est vraiment bonne pour notre peau ? Et donc là, j'ai commencé à étudier toutes les crèmes solaires, tous les filtres UV qui existent, et je me suis rendu compte que au-delà d'avoir un impact négatif sur notre santé, ça a un impact négatif sur notre environnement. Et alors là, tu vois, je suis rentrée dans des trucs où en fait c'est fascinant, le milieu de la cosmétique, le milieu des produits d'hygiène, où en fait il existe plein de choses aujourd'hui sur le marché dans lesquelles beaucoup de consommateurs n'ont plus confiance, et où en fait il faut essayer de trouver des alternatives, essayer de trouver les meilleures alternatives, mais c'est un combat quotidien en fait, d'essayer de faire toujours mieux. Il y a un combat sur la santé, mais il y a un combat écologique. Et donc depuis, vraiment depuis début 2018, on s'est lancé là-dedans à fond, avec beaucoup de passion. Et donc en mai 2018, on a lancé, du coup, on a livré...
2019, pardon.
Oui. Depuis début, ouais. Donc mai 2019.
6 mois plus tard.
Il y a 6 mois, en fait. Ouais. On a lancé, on a livré les 21 000 déodorants. Moi, je dis que vraiment, le lancement officiel, il date de mai 2019. Parce qu'on a livré les 21 000 déodorants. Donc là, c'était un gros stress pour moi. Parce que, pour nous deux, en fait, mais moi, je paniquais à fond. C'était, est-ce que ces 21 000 déodorants vont plaire? aux personnes qui les ont commandées. Tu vois, c'est ça le plus gros risque. Et puis j'avais au fond de moi un petit truc où je me disais, j'ai envie en fait que les gens me donnent des nouvelles, me montrent qu'ils ont reçu leur déodorant. Donc je me disais, j'ai trop envie que mon déodorant il soit instagrammable et que les gens le prennent en photo et me fassent des retours. Ça a été un truc de dingue. On a livré les 21 000 déos. Le lendemain, j'avais 500 photos sur les réseaux sociaux de mon déodorant. J'étais complètement fascinée par la puissance des réseaux sociaux où les gens étaient capables de prendre en photo un déodorant alors que c'est un des produits les moins sexy de la Terre. Donc ça a été génial. Après ça, on a lancé notre site internet de e-commerce, donc respire.co, qui a complètement, pareil, repris à fond. Les gens, le fait qu'ils en parlaient, qu'ils postaient sur les réseaux sociaux, ça a fait du bouche à oreille monstrueux où il y a eu énormément de commandes d'un coup. On s'est fait contacter par Monoprix. Qui a eu envie de nous référencer. Donc, on a lancé chez Monoprix dans toute la France. Ça a été incroyable. Sincèrement, découvrir mes produits en rayon, ça a été complètement fou. Les gens prenaient des photos aussi en rayon. Et en 4 jours, donc au moment du lancement, au bout de 4 jours chez Monoprix, tout était en rupture de stock. Il n'y avait plus de respire. Et donc là, ça a été dingue. On avait des petites PLV, tu vois, des petits présentoirs en bois avec nos déodorants. Ils étaient tous vides. Et les gens m'envoyaient tous des photos de la PLV, parce qu'en plus, il y avait une petite photo de moi dessus. Tous les gens m'envoyaient une photo du présentoir vide, quoi. Et c'était dingue. Donc ça a été le mois de mai. Après ça, il y a eu le mois de juin, on a lancé la crème solaire qu'on développait, du coup, depuis plusieurs mois avec un autre laboratoire en Bretagne qui est spécialisé dans les crèmes solaires, crèmes solaires naturelles et minérales. Ça a été un énorme succès. Là, pour le coup, on a été hyper prévoyants. On n'a pas fait beaucoup de... on a fait une petite production en se disant, on ne savait pas trop. Et en fait, ça a cartonné sur l'été. Du coup, on retravaille cette crème solaire, la gamme solaire pour l'année prochaine.
Okay.
Et après ça, on s'est lancé à fond. On a embauché beaucoup dans les mois qu'on suivit. Et là, tu vois, aujourd'hui, on est au mois de décembre 2019 et on est 16 dans l'équipe.
Oui.
Donc, tu vois, on est passé de 2 à 16 en l'espace de 8 mois. Et on a lancé depuis d'autres produits. On a lancé l'éco-recharge qui permet de recharger notre déodorant. Donc toujours en se basant sur les retours de la communauté. Mmh. En fait, sur les réseaux sociaux, la communauté est vraiment ultra présente et nous disait, c'est génial votre déodorant, mais j'adorerais pouvoir réutiliser la bille et pas avoir à en racheter un. On a réussi à développer cette éco-recharge qui nous permet de recharger 3 fois le déodorant qui est en plastique 100% recyclé à partir de bouteilles de lait. On a lancé notre gamme solide, donc avec un shampoing solide qui mousse super bien, qu'on a développé avec un laboratoire qui est complètement spécialisé là-dedans et qui a réussi à développer une formule qui mousse, parce que c'était le plus gros défi dans le shampoing solide, mais qui est toujours naturel, toujours avec des ingrédients super clean. Et on a développé aussi un savon sur gras naturel, bon pour le corps, donc qui va avec notre shampoing pour la gamme solide.
Waouh!
Ouais, ça en fait des choses. Hein.
Et tu dors quand?
Ah, en vrai, je dors, parce que c'est ma... Non, mais clairement, je le dis tout le temps, les gens me disent, mais c'est quoi ton truc pour être en forme? C'est de dormir, parce que je me force vraiment à dormir minimum 7 heures par nuit. Mm-hmm. Si je dors moins de 7 heures, je suis exécrable et je vais pas être efficace et je vais perdre mon smile et genre mon énergie positive. Vraiment, je considère que je suis une personne, je pense, qui est une énergie positive. Enfin, je suis hyper optimiste dans la vie et d'ailleurs ça me saoule, tu vois, les gens qui font la gueule, qui râlent. C'est pour ça que Paris, c'est là où c'est pas facile. Quand tu prends le métro parisien, tu vois beaucoup de gens qui râlent et qui font la tronche.
J'allais dire Montréal, c'est une ville où j'ai la sensation que les gens sont heureux. En tout cas, il y a un peu ce cliché de les Montréalais sont
Complètement.
Les Québécois d'une manière générale.
Et je pense
sympas.
Que j'ai aussi pris ça de chez eux, quoi. Ouais. Les Québécois, enfin, sont d'une gentillesse, d'une sympathie, et vraiment c'est de l'énergie positive constante. C'est génial. Et dès que t'as quelqu'un qui a une énergie négative, enfin, tu sens que la personne elle fit pas du tout là-bas. Et donc à Paris, c'est vrai que il y a parfois de l'énergie négative. Et nous, dans l'équipe, on essaye vraiment d'avoir une équipe avec des gens qui sont heureux de vivre, quoi, avec des énergies positives, qui sont contents de venir bosser. Et aujourd'hui, je trouve qu'on arrive pas mal à créer ça dans l'équipe. Donc c'est une de mes plus grandes fiertés là aujourd'hui d'avoir créé une équipe. D'avoir ouvert du coup nos propres bureaux qui s'appelle la Maison Respire, où tu es venu d'ailleurs. Oui. Et du coup, cette Maison Respire où on travaille tous les jours et où on peut accueillir notre communauté autour d'événements qu'on organise. Parce que le but, c'est toujours de rencontrer notre communauté, parce que c'est elle qui nous aide en fait à développer Respire depuis le début. Donc,
c'est quoi la suite?
La suite.
Sans raconter des projets, même ne serait-ce que à titre personnel, quoi, tu vois, parce qu'aujourd'hui je me posais une question, je me disais est-ce que tu vas pas avoir le syndrome Amélie Poulain, c'est-à-dire non mais tu sais, Audrey Tautou pendant très longtemps elle était Amélie Poulain, et t'as pas peur toi d'être personnifiant à ce point-là ta marque, de finir par y être attaché, de plus pouvoir t'en détacher? Ouais, c'est, alors, c'est des questions que tu te poses ou pas, je me rends pas compte.
Ouais, complètement. Je me les suis posées parce que rapidement, en fait, on me les a posées. On m'a dit, mais finalement, respire, c'est Justine. Et en fait, aujourd'hui, c'est sûr que on est intimement liés. Hein. Respire et moi, c'est clair. Après, j'ai pas appelé ma marque Justine Hutto comme Alain Affelou, tu vois. Enfin, je suis quand même, je suis complètement détachée de ce qu'elle respire.
Justine Hutto déodorant.
T'imagines? Oh là là. Mais je me dis, il y a quand même des gens, en fait, c'est ça qui est incroyable. Je rencontre souvent des consommateurs qui me disent qu'ils ont acheté Respire sans me connaître, qu'ils ont en fait découvert Respire chez Monoprix ou chez Sephora, parce que maintenant on est aussi chez Sephora, en pharmacie. Enfin, ils peuvent découvrir nos produits à d'autres endroits que juste via les réseaux sociaux et par moi. Et il y a beaucoup de gens qui achètent Respire sans me connaître. Et donc, ça, je me dis que c'est génial en fait, parce que c'est ça mon objectif, c'est que Respire réussisse à vivre seul. Et je me dis que là on développe une équipe, et si on fait un bon travail, bah normalement, clairement, d'ici quelques années, les gens devraient même pas avoir en tête en fait que je suis la fondatrice de Respire, tu vois, que derrière Respire il y a Justine Hutto. C'est, en tout cas au début, c'est sûr que j'incarne, mais de plus en plus, c'est pas le but que ça reste complètement rattaché juste à moi.
Ok.
Même si c'est une de mes plus grandes fiertés.
Bah, j'espère bien pour toi.
Ouais. Mais sinon, ouais, la suite, il y a pas mal de choses. Il y a donc continuer de développer cette communauté, faire évoluer cette communauté qui est hyper engagée, hyper forte, et qui vraiment est aujourd'hui la clé du succès de Respire, clairement. Donc continuer sur les réseaux sociaux avec beaucoup de patience, tu vois, parce qu'une communauté, en fait, c'est une relation de proximité, et ça se travaille. Tu es le premier à le savoir. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, qui fait partie, moi, de mes objectifs principaux. Réussir à garder cette super relation, et c'est du travail, tu vois, même si je le fais avec beaucoup de passion et de spontanéité, c'est du travail. Ensuite, il y a continuer d'élargir la gamme. Clairement, on a envie d'être la marque d'hygiène qui vient offrir des alternatives à tous nos produits du quotidien dans notre salle de bain. Donc renouveler tout notre quotidien de la salle de bain. Du coup, on développe des super produits là. Dès le mois de janvier, il y en a un qui sort tous les mois. Donc ouais, c'est sincèrement, on arrive très très fort là à partir de 2020. C'est pour ça qu'on a structuré une équipe aussi vite. Et puis l'autre chose qui est aussi très importante pour 2020, c'est qu'on va aller à l'international. Donc très vite, on va sortir de nos
défi,
frontières.
Hein.
T'as dit quoi ?
Gros défi.
Ah ouais, gros défi. Ah non, mais c'est clairement c'est un des plus gros défis aussi. Après, il va falloir voir comment on arrive à mettre en place toute cette stratégie, mais c'est un bel objectif. Et en fait, tout va très vite. Donc sincèrement, quand on me demande tu es où dans un an, je sais pas.
Oui, je n'allais pas te poser cette question-là, parce que vu d'où,
c'est bien.
Vu où t'étais il y a un an...
Ah mais j'aurais jamais imaginé que tu m'invites un an plus tard ici pour parler de mon histoire dans un podcast. Enfin, tu vois, c'est complètement fou ce qui... Parfois je me dis c'est fou ce qui m'arrive, et en même temps, c'est énormément de travail, énormément de persévérance. Et aujourd'hui, et puis surtout une équipe de rêve qui... Enfin, et Thomas, tu vois, c'est tout le temps moi qui parle, mais c'est Thomas, c'est moi, et c'est l'équipe aujourd'hui qui est derrière. Donc,
merci beaucoup, Justine.
Merci, merci à toi.
On a plein parlé, c'était trop bien, 1h10. Wow. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir raconté tout ça, d'avoir parlé de... On en refera un épisode un peu plus tard, parce que j'ai envie de te parler aussi de sport, un peu plus, des étoiles du sport, etc., parce que tu fais plein de choses. Je vous mettrai tous les liens, si vous ne connaissiez pas Justine, sur les réseaux sociaux, pour que vous puissiez suivre à la fois Justine et aussi les produits de Respire. Vous pourrez tout retrouver dans les notes du podcast, toi, mais tu sais. Un grand merci, en tout cas.
Merci, merci.
Salut.
À toi.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.